5h30 à Paris, 6h30 à Tana. Merci d'être à l'écoute des RFI.
Nemo en piste.
Les attentes des fidèles du monde entier après l'élection de Léon XIV à la tête de l'Église catholique. Nombreux sont ceux qui espèrent que le nouveau pape marchera dans les pas de François. Illustration à Madagascar, où l'Argentin s'était rendu en 2019. La Chine a demandé à ses ressortissants basés au Soudan de quitter le pays. Pas de raison précise évoquée par Pékin. Mais cela survient après la publication d'un rapport qui indique que des armes utilisées par les paramilitaires sont de fabrication chinoise. Du palais présidentiel à la prison, comment expliquer la chute de l'ancien bras droit du président tchadien. Idriss Youssouf Boy, condamné hier à 5 ans de prison pour corruption passive. Les coulisses de cette affaire dans ce journal. Des accusations de violence, de torture et même de viol. Une ONG sud-africaine dans la tourmente pour la gestion d'un parc au Congo-Brazzaville. La direction a reconnu des violations de droits humains après une enquête indépendante. Les fidèles catholiques du monde entier apprennent depuis jeudi soir à connaître un peu mieux leur nouveau chef, Léon XIV, réputé discret mais qui semble s'inscrire dans la lignée de son prédécesseur François. C'est le cas à Madagascar où le pontife argentin était passé en 2019 et où il avait mis l'accent sur l'urgence de la préservation de ce qu'il avait appelé la maison commune, référence à la forte biodiversité de la grande île, aujourd'hui plus que jamais très menacée. Environnement donc, mais aussi consolidation de l'Église catholique et solidarité envers les plus démunis. Autant de sujets sur lesquels Léon XIV est attendu par les pratiquants, comme l'a constaté Pauline Letroquier lors d'une séance de prière dans la paroisse d'Anasiaz, quartier populaire d'Antananarive.
Une centaine de voix d'enfants résonnent ce matin dans l'église. Dans leur chant, les jeunes fidèles implorent la protection de la Vierge Marie. Et le message n'est pas anodin. Sur l'île, la puissante communauté catholique se sent menacée par la prolifération de mouvements évangéliques, une tendance encouragée depuis une dizaine d'années par la pauvreté. Floria, catéchiste de la paroisse, espère que Léon XIV saura unifier l'église à Madagascar.
Les autres églises nous détestent beaucoup. Les sectes. Parfois, dans ces églises, il y en a des aides, des matières premières pour attirer les gens chez eux. Et puis, toutes les églises sont déstabilisées avec ça.
Père Marcelo, lui, attend du souverain pontife le même engagement que son prédécesseur pour l'environnement. Alors que le tracé de la première autoroute du pays menace ses dernières forêts primaires, la question est selon lui plus que jamais d'actualité.
L'autoroute, hein, on a besoin de ça pour communiquer. Mais l'environnement, c'est le poumon de Madagascar. Espérons qu'avec le pape Léon XIV, ce soit un gardien toujours de l'environnement.
Les fidèles espèrent que Léon XIV continuera à être un pape proche des pauvres dans un contexte où l'église malgache peine à faire entendre ses critiques de la situation socio-économique. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
Un sixième jour consécutif hier de frappe sur Port-Soudan, siège provisoire du gouvernement. Des attaques de drones attribuées aux forces de soutien rapide par une source militaire. Autre cible des hommes du général Emmeti, la centrale hydroélectrique d'Adbara, ce qui a entraîné un incendie puis une coupure de courant dans les états du Nil et de la mer Rouge où est situé Port-Soudan. Et la veille, jeudi, la Chine appelait ses ressortissants à quitter le pays sur le champ. Cela après la publication d'un rapport mettant en cause Pékin dans la fourniture indirecte d'armes au FSR. L'ONG Amnesty International assure que des drones utilisés sont de fabrication chinoise, identifiés grâce à l'analyse d'images et de débris retrouvés. Ce matin, Aymeric Helluin, chargé de plaidoyer auprès de l'ONG, rappelle que ces armes sont fournies aux paramilitaires par les Émirats arabes unis, et cela en violation de l'embargo onusien sur les armes.
Deux types de matériel de guerre ont été documentés. D'une part, et pour la première fois, utilisés dans un conflit armé, des bombes guidées d'origine chinoise, fabriquées par Norinco, une grande entreprise publique de la défense chinoise, qui sont utilisées au moyen de drones dont disposent les forces dirigées par le général Emeti. Et également, nous avons documenté aux mains de ces mêmes forces paramilitaires des obusiers de 105 mm de type AH-4, produits donc par la Chine et encore une fois produits par l'entreprise Norinco. Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'une nouvelle fois, on constate que ces équipements n'ont pas été transférés directement au Soudan. Et pour cause, le Soudan fait l'objet d'un embargo, un sur le Darfour et un sur l'ensemble du pays. Que ces équipements ont été achetés à la base par les Émirats arabes unis à la Chine et réexportés à destination des forces d'appui rapide. Alors, deux conclusions, c'est que nous constatons une nouvelle fois que les Émirats arabes unis ne cessent de renforcer leur soutien aux forces paramilitaires, que les Émirats arabes unis, une nouvelle fois, font du détournement d'armes. Quand vous vendez des armes, en général, c'est pas pour que votre acheteur les réexporte vers des destinations que vous n'avez pas autorisées. Et la Chine, il faut le savoir, est un État parti au traité sur le commerce des armes. Donc, la Chine a l'obligation, lorsqu'elle exporte transport des armes, de s'assurer que ces armes ne soient pas détournées.
Émeric Éluin avec Alexandra Branjon, les Émirats Arabes Unis qui rejettent ce rapport. Ces affirmations sont sans fondement et dénuées de preuves, a affirmé le ministre adjoint pour la sécurité et les affaires militaires. Il en risquait 10 finalement. Idriss Youssouf Boy a été condamné à 5 ans de prison et une amende d'1 million de francs CFA. L'ancien ministre et directeur de cabinet du président tchadien Mahamat Idriss Déby, reconnu coupable de corruption passive. Dans un premier temps, son limogeage avait fait l'effet d'une bombe. Idriss Youssouf Boy avait ensuite été emprisonné discrètement dans les locaux des renseignements généraux avant d'être donc condamné ce vendredi. Mais alors, comment expliquer sa chute ? Élément de réponse avec Esdras Dikoumana.
Officiellement, l'ancien tout-puissant chef de cabinet du président tchadien paye le prix d'une simple affaire de corruption, même si les montants en jeu sont conséquents. Il a été accusé par Hachim Boudère, un ancien maire d'Amdjaras, et l'un des principaux bénéficiaires de contrats publics de construction d'infrastructures, notamment de l'Enedi, la province d'origine des Itno. Il y a dans le clan au pouvoir de plus en plus de divisions et de mécontentements, notamment par rapport à la question soudanaise ou aux infrastructures non réalisées, malgré des dizaines de milliards de francs CFA décaissés. Mahamat Idriss Déby a décidé de lâcher son bras droit, d'autant que Youssouf Boy est très détesté dans les milieux du pouvoir, notamment pour ses origines selon le source, ce qui les a calmés pour le moment, ajoute-t-elle. En plus, le président tchadien l'avait déjà limogé, emprisonné avant de passer l'éponge et de le ramener à ses côtés dans une autre affaire de détournement de fonds en 2022. Mahamat Idriss Déby n'avait pas alors hésité à le mettre en garde publiquement contre une récidive dans son autobiographie de Bédouin président parue l'année passée. Mais en réalité, ce qui a été décisif dans cette affaire selon le source, ce sont les Émiriens qui ont exigé la tête de Youssouf Boy après avoir constaté qu'il avait détourné une partie de leur aide. Les sommes en jeu sont si importantes que Mahamat Idriss Déby s'est résolu à le sacrifier, assure-t-elle.
Je précise que l'accusateur d'Idriss Youssouf Boy, About Hachim Boudère, a lui aussi été condamné à 5 ans de prison, lui, pour corruption active. Les avocats d'Idriss Youssouf Boy ont eux annoncé faire appel de la décision. Plus de 36 millions de personnes qui peinent à satisfaire leurs besoins alimentaires en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Des chiffres dévoilés par le PAM ce vendredi, le Programme Alimentaire Mondial, qui craint que ce chiffre n'atteigne 52 millions pendant la période estivale de la soudure, entre deux récoltes. L'agence onusienne qui il y a deux mois évoqué une crise sans précédent en raison notamment d'une baisse de 40% de ses financements en 2025, mais aussi de l'arrêt des programmes d'aide américains et de la réduction des aides de plusieurs pays occidentaux. Et une autre branche de l'ONU, OCHA, le Bureau des Affaires Humanitaires, annonce en parallèle une réduction de près de moitié de ses objectifs en République démocratique du Congo. Là encore, le déficit de financement est critique et là encore, la suspension de l'aide décidée par Donald Trump n'y est pas pour rien. Passion Ligaudi.
La tendance était déjà inquiétante et elle vient de se confirmer. À la fin du mois d'avril, seuls 9% des fonds demandés avaient été mobilisés. C'est moitié moins que l'année dernière, à la même période. La raison principale, la suspension de l'aide américaine. Washington finançait à lui seul 70% du budget humanitaire. Conséquence directe, des secteurs vitaux comme la santé, la sécurité alimentaire ou encore la réponse aux urgences sont aujourd'hui en danger. Et face à cette chute brutale des financements, l'ONU a dû faire des choix. Une liste rouge a été dressée et seules les interventions jugées les plus urgentes seront maintenues. Ce sont des millions de personnes qui risquent ainsi de ne plus recevoir d'aide. L'ONU veut concentrer les efforts sur les plus vulnérables, optimiser l'impact avec ce qui reste. Autre priorité désormais, trouver de nouveaux partenaires. Gouvernement, bailleurs de développement, secteur privé, tous sont sollicités. Et puis cette crise pose aussi la question des responsabilités locales. L'ONU appelle l'État congolais à s'impliquer davantage en apportant un soutien logistique, en facilitant l'accès aux zones touchées et en renforçant la coordination au niveau provincial. Un appui essentiel pour que les humanitaires puissent se concentrer sur les urgences et n'aient pas remplacer les services publics.
Patient Ligaudi, l'ONG sud-africaine de conservation de la nature African Parks, dans la tourmente, présente dans 13 pays du continent, est connue pour sa gestion de parcs nationaux en accord avec les gouvernements dans des zones souvent dangereuses. Eh bien, elle est accusée de violation des droits humains au Congo-Brazzaville. Jeudi soir, et après la publication d'une enquête réalisée par un cabinet indépendant, sa direction a reconnu qu'une partie de ses accusations était avérée. RFI Johannesburg, Claire Bargelès.
L'organisation a reconnu que dans certains cas, des violations des droits humains ont été commises, sans plus de précision sur les cas en question. Nous regrettons profondément la douleur et la souffrance causées aux victimes, poursuit-elle dans un communiqué. Les accusations sont graves. Des membres du peuple Baka affirment que les rangers d'African Parks leur ont fait subir des violences, des tortures et même des viols dans le cadre de leur mission de protection du parc national d'Otzala-Kokua, qu'ils gèrent depuis 15 ans en accord avec le gouvernement de Brazzaville. Ces victimes sont soutenues par l'organisation Survival International, qui avait également alerté il y a plusieurs années sur les atteintes aux droits de l'homme dans le bassin du Congo par des éco-gardes liés à des projets financés par le WWF, qui a depuis changé ses pratiques. African Parks affirme désormais prendre les mesures nécessaires, reconnaissant des défaillances. Ce n'est pas la première fois que l'ONG, longtemps présidée par le prince Harry, qui siège toujours à son conseil d'administration, est critiquée pour son modèle de conservation de la nature, qualifié de forteresse, très exclusif pour les populations locales. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
RFI, l'actualité du continent. En bref, pas de rassemblement hier à Bamako. Il avait été reporté par les organisateurs après la suspension de toutes les activités politiques du pays par les autorités de transition. En revanche, plusieurs cas d'enlèvement d'hommes politiques ou tentatives ont eu lieu hier et avant-hier. Jeudi dans la journée, c'est un militant du parti Yelema qui a été enlevé par des hommes encagoulés. Un peu plus tard dans la soirée, un ancien député Alassane Abba. Et ce vendredi, des tentatives d'enlèvement ont également été signalées. Allez, vous en lisez plus, c'est à la une de notre site www.rfi.fr. Du sport et du football, pour refermer cette première partie, Sébastien De Sabre a dévoilé la liste des joueurs sélectionnés pour les prochains matchs amicaux de la RDC. Trois nouveaux viennent gonfler les rangs des Léopards. Le défenseur du Legia Varsovie, Steve Capuadi, le latéral de West Ham, Aaron Wan-Bissaka, et l'attaquant de Jagiellonia en Pologne, Afimiko Pululu, ce dernier meilleur buteur de Ligue Europa Conférence et qui avait le choix entre la RDC et l'Angola, même s'il avait récemment évoqué son souhait de porter le maillot congolais. Un rêve qui va se réaliser à Afimiko Pululu.
Franchement, c'est un sentiment indescriptible. Je ne pourrais pas le décrire comment je me sens. Je me sens juste heureux, beaucoup de fierté et honoré. Honoré vraiment. Voilà, parce que je me dis que voilà, le travail paye, la passion se prime. Je suis vraiment très content. Voilà, je suis vraiment très impatient, très excité à l'idée de rejoindre la tanière, de rejoindre la terre de mes ancêtres, de pouvoir porter ce maillot, de pouvoir découvrir les nouveaux joueurs, les nouveaux coéquipiers, et puis voilà. Essayer bien sûr après par la suite de faire ma place dans le groupe, mais en tout cas vraiment pour être appelé pour la première fois, c'est vraiment un très grand honneur et je donnerai tout pour ce maillot. Et je suis vraiment fier de faire partie de cette sélection congolaise.
Afimiko Pululu avec Sofia Namazian. Les Léopards qui disputeront deux matchs amicaux contre le Mali et Madagascar les 5 et 8 juin en France à Orléans. Les sports, c'est avec Antoine Grenier ce matin sur RFI. Le prochain journal, ce sera dans une heure.
Afrique Matin sur RFI. Nemo en piste.
Allez, dans la petite vingtaine de minutes qu'il nous reste à passer ensemble, on parle inculturation, un dossier probablement à l'agenda du nouveau pape Léon XIV. En tout cas, de nombreux fidèles sur le continent l'attendent au tournant. Notre invité, le spécialiste de la question au Bénin, Florentin Nangbé. Un point sur le paysage politique en Côte d'Ivoire. À 6 mois maintenant de l'échéance présidentielle, c'est à la une de Jeune Afrique. Et puis nous sommes au Pays de Galles à la découverte du collectif Afro Cluster, mélange de groove et d'engagement. Avant cela, le reportage du jour. N'est pas coutume à Paris, où se tient jusqu'à dimanche le Nollywood Week, festival entièrement dédié au cinéma nigérian, un milieu qui compte notamment de nombreuses femmes, des productrices ou encore réalisatrices. Et la marraine de cette édition, c'est l'actrice et réalisatrice Aïssa Maïga, pas anodin, elle qui met la question de la femme et de la lutte contre la corruption au cœur de ses priorités. Ouda Ibrahim.
Le travail de la police, ce n'est pas ça, mais il y a de la mauvaise graine dans toutes les professions, répond un chef policier à son subordonné dans le film La nuit du 7 juin du réalisateur Tokamak Baror, qui traite de la corruption au sein de la police nigériane en se basant sur une histoire vraie. Autre film pour Amina, qui en plus de montrer une femme extraordinaire, s'attaque à la corruption en milieu éducatif. Bikia Graham Douglas, productrice et actrice qui tient le rôle principal.
It's about accountability.
Le film pour Amina parle de la responsabilité. Nous y voyons une mère qui lutte contre un système corrompu pour que sa fille ait accès à l'éducation comme il se doit. Il s'agit d'une femme presque illettrée et qui n'a pas de pouvoir. Mais elle utilise le pouvoir des médias pour avoir des réponses du gouvernement. Et donc cette histoire raconte comment nous devrions faire pour responsabiliser les autorités afin de s'assurer que nous construisions une société meilleure. Tout cela se fait à travers le prisme d'une relation mère-fille pour que cette fille ait une bonne éducation.
Nollywood Week montre également des sujets plus complexes, comme dans le film Out in the Darkness de Sara Kwaji, réalisatrice et scénariste.
Au Nigeria et dans le reste du monde, la santé mentale des femmes, en particulier les problèmes comme la dépression postpartum, a été négligée et rejetée. Elle est largement incomprise. J'ai donc décidé de donner de la visibilité à ce sujet pour combler ce vide narratif qui a désespérément besoin de plus de sensibilité et de compassion.
Avec la nouvelle génération, le cinéma de Nollywood connaît des transformations profondes. Tierno Ibrahim Adia, critique de cinéma.
Ce cinéma a été très dans les genres fantastiques, horreur, et maintenant elle tend à revenir vers une analyse de la société et par le cinéma interroger les rapports qui existent dans cette société. Et donc ce cinéma-là travaille à traduire les réalités. C'est un retour vers plus d'ancrage et moins de cette tendance très Nollywood qu'on connaissait au début.
Nollywood, cette industrie très jeune, est aujourd'hui touchée par la crise économique que traverse le Nigeria.
Un reportage que vous pouvez réécouter à tout moment sur l'application RFI Pure Radio. Les principaux titres de ce samedi 10 mai 2025. L'Inde a bombardé des bases aériennes pakistanaises tôt ce matin. Trois bases, dont l'une près de la capitale Islamabad, ont été visées. Le Pakistan annonce être en train de répondre. C'est un camp de plus dans la confrontation militaire et dans l'extrême tension entre Inde et Pakistan. Les pays du G7 appellent à une désescalade immédiate. C'est à la une de notre prochain journal dans un petit quart d'heure. Des dirigeants européens à Kiev aujourd'hui. Le français Emmanuel Macron, le britannique Keir Starmer, l'allemand Friedrich Merz et le polonais Donald Tusk qui sont attendus. Ils doivent tenir une réunion avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ils devraient notamment évoquer la dernière proposition américano-européenne de cessez-le-feu. Arrêt des combats inconditionnels et d'une durée de 30 jours. Et puis en France, le meurtrier d'Aboubacar Cissé est revenu au pays. La justice italienne l'a remis à son homologue française hier. Il a été mis en examen et écroué dans la foulée. Olivier Adzivic, 20 ans, est accusé d'avoir tué le jeune Malien il y a 2 semaines dans une mosquée du sud de la France. Le suspect s'était enfui en Italie avant de se rendre de lui-même à la police. Aboubacar Cissé, lui, a été enterré dans son village natal de l'ouest du Mali ce jeudi. Comme tous les samedis, on jette un œil sur la une de Jeune Afrique. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, à 6 mois du scrutin présidentiel prévu le 25 octobre. Et alors qu'on ignore encore si le président sortant Alassane Ouattara sera candidat à un 4e mandat, côté opposition, le principal représentant Tidiane Thiam a été radié des listes électorales. État des lieux avec Florence Richard en charge de la Côte d'Ivoire pour JA. Elle est au micro de Catherine Poté.
Bonjour Florence Richard.
Bonjour.
Comment l'opposition ivoirienne appréhende-t-elle la situation aujourd'hui après la radiation de Tidiane Thiam?
Après les premiers signes d'un rapprochement en août, les partis d'opposition ont officialisé en mars la création d'une vaste coalition baptisée Coalition pour l'alternance pacifique Côte d'Ivoire, le CAPCI. C'est une coalition qui se définit comme non idéologique et se veut être un cadre permanent de concertation et d'action. Elle regroupe donc le PDCI de Tidiane Thiam ainsi que les partis de l'ancienne première dame Simone Ivé Gbagbo, ceux d'Affine Guessan ou encore de Blé Goudé. Un grand absent cependant, Laurent Gbagbo. Il faut dire que les relations avec ses anciens alliés, tous par ailleurs candidats déclarés à la présidentielle, ne sont pas au beau fixe. Il n'a plus de contact direct avec eux depuis plusieurs années. Il a ainsi décidé de lancer son propre mouvement, Trop c'est trop. Pourtant, l'ancien président partage finalement les mêmes objectifs que les autres partis, soit garantir des élections inclusives et surtout faire barrage au Rassemblement des Houphouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP d'Alassane Ouattara, dont on ne sait pas encore s'il sera candidat.
Alors, vous l'avez dit, l'ancien président Laurent Gbagbo s'est porté candidat à l'élection présidentielle, de même que son ancien ministre Charles Blé Goudé et l'ancien premier ministre Guillaume Soro. Mais tous ont été déclarés inéligibles en raison de condamnations judiciaires. Alors, est-ce que leurs partis respectifs ont réfléchi à un plan B ?
Alors officiellement non, tous trois candidats déclarés et donc comme vous le disiez inéligibles restent déterminés à se présenter à l'élection qui aura lieu dans 6 mois. Pourtant leur sort semble scellé et malgré des recours, il est impossible en l'état que leur nom figure sur la liste électorale définitive qui sera publiée le 20 juin. Alors l'opposition pourrait-elle décider de boycotter le scrutin comme ce fut le cas en 2020 ? Ce n'est pas une stratégie qui semble pour l'heure être retenu. Nous allons aller aux élections et nous allons gagner les élections, a assuré l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo lors d'un récent rassemblement dans le sud-est du pays.
Alors pour faire face à la situation, l'absence donc de tous ces candidats potentiels, une candidature commune de l'opposition est-elle envisageable ?
Alors pour l'instant, non, ce n'est pas quelque chose qui est à l'étude. Un membre de cette opposition confiait récemment à Jeune Afrique que ce n'était pas à l'ordre du jour et qu'il était plus probable qu'un mot d'ordre de ralliement soit donné au second tour. Reste à savoir autour de qui, en l'absence de plusieurs figures de l'opposition qui demeurent inéligibles. En tout cas, à 6 mois de l'échéance, la pression du calendrier électoral pourrait forcer à une clarification rapide des positions.
Merci Florence Richard. Cet article sur la Côte d'Ivoire est à retrouver sur jeuneafrique.com.
Et cet entretien entre Florence Richard et Catherine Potet à retrouver sur l'ensemble des plateformes RFI. On continue, vous l'avez entendu ce matin, de parler de Léon XIV, nouveau chef de l'Église catholique. Lui qui semble porter un regard attentif au pays du Sud, trouvera sur son bureau le dossier de l'inculturation, une démarche qui consiste à faire dialoguer le rituel catholique avec des cultures locales. François en avait été un fervent défenseur et les fidèles, notamment en Afrique, s'attendent à une certaine continuité. Florentin Nangbé est l'un des intellectuel qui réfléchit sur l'inculturation au Bénin. Il est enseignant à l'université d'Abomey-Calavi et est notre invité ce matin au micro de Laurent Corot.
Bonjour Florentin Nangbé.
Bonjour.
À quel point les fidèles de votre pays, le Bénin, ressentent-ils le besoin d'un plus grand dialogue entre le rite catholique et les traditions ?
L'avenir de l'Église dépendra de la profondeur de l'inculturation. L'inculturation, c'est un processus qui vise à intégrer le christianisme dans une culture tout en respectant et en enrichissant cette dernière pour créer une expression unique et vivante de la foi. Pour l'avenir de l'Église, les fidèles catholiques doivent œuvrer à travers la communauté et la transmission pour éduquer véritablement les enfants, les générations futures, pour que leur foi s'approfondisse véritablement sur la transmission des cultures. C'est fondamental. Sans ça, les autres cultures vont prendre le pas sur nous.
Votre pays, le Bénin, est un pays qui a déjà beaucoup cheminé dans cette réflexion sur l'inculturation. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Florentin Nangbé, quelle a été l'expérience du Bénin dans ces questions d'inculturation, notamment avec le mouvement du Sillon Noir dans les années 70 ?
Si vous participez à une célébration eucharistique au Bénin, vous allez constater réellement qu'il y a une dimension culturelle béninoise dans la célébration. C'est en 1970 que nous avons commencé l'expérience de l'inculturation de la foi chrétienne en Afrique, et notamment au Bénin. Un mouvement initié et mis en place par Monseigneur Adou Kounouba Télémy. Et ce que nous avons pu faire jusque-là, premièrement, c'est l'intégration des rites et symboles locaux. Et je peux vous donner 2 exemples. Les funérailles chrétiennes inculturées et la procession théâtralisée des offrandes. Quand il y a un décès, vous allez voir la manière dont le chrétien catholique décédé est enterré. Et il y a aussi l'utilisation des langues locales et de la musique traditionnelle. Donc les chants liturgiques, les lectures et parfois même les homélies sont proposées dans différentes langues béninoises pour montrer la profondeur de l'évangile. Parce que la compréhension est plus totale. Ce qui renforce le sentiment d'appartenance et la vitalité de la communauté. En outre, prochain, il y aura un colloque pour faire le point de tout ce que nous avons fait jusque-là pour pouvoir atteindre les objectifs escomptés.
Alors, quel bilan justement faites-vous de l'action du précédent pape, le pape François, sur ces questions de dialogue entre foi catholique et culture locale ? On se souvient que François était très engagé en faveur de l'inculturation et avait mis en valeur le rite zaïrois en le présentant comme un modèle d'inculturation pour l'ensemble de l'Église universelle.
Le pape François, il considère qu'une foi pas inculturée n'est pas authentique. Vous voyez son engagement ? Donc, il est allé très loin, très loin. Et les Africains sont très fiers de ce pape.
Qu'attendez-vous justement du nouveau pape, Léon XIV, sur ces questions d'inculturation ?
Mais ce que nous attendons de lui, dès lors qu'il était très proche le pape François, nous sommes dans une logique de continuité. Il doit approfondir et consolider les acquis de pape François et évoluer dans sa dynamique avec une certaine ouverture par rapport aux Africains et venir régulièrement en Afrique pour pouvoir mobiliser les laïcs autour de ces idéaux.
Florentin Nangbé, pensez-vous qu'il soit utile ou nécessaire que le Vatican réunisse un jour un synode africain, comme il y a eu un synode d'Amazonie, afin notamment d'aborder ces questions d'inculturation ?
Ah, c'est mon souhait. C'est important qu'il y ait ce synode, faire le point, le niveau de mise en œuvre de l'inculturation en Afrique, relever les défis, c'est important.
Monseigneur Adou Konou, l'un des pionniers de la réflexion sur l'inculturation au Bénin, estimait nécessaire de suivre l'appel lancé aux Africains par le pape Paul VI à Kampala en Ouganda le 31 juillet 69. Vous pouvez et vous devez avoir un christianisme africain. Ce sont les mots qui avaient été prononcés par Paul VI. Est-ce que c'est un appel qui est toujours d'actualité selon vous?
Bien sûr, tout en étant dans la hiérarchie de l'Église catholique. Il faut qu'il y ait une certaine autonomisation et pour qu'on soit plus à l'aise par rapport à ce qui se passe.
Florentin Nangbé, merci.
Entretien entre Florentin Nangbé et Laurent Courreau à retrouver sur RFI.fr. 5h55 ici à Paris, la fin de cette demi-heure en musique avec un collectif gallois qui depuis plus de 10 ans maintenant fait danser les genres et parler les cultures sur les scènes de festivals prestigieux comme Glastonbury. Ce collectif gallois est à l'affiche de la 15e édition de Focus Wales dans le nord du Pays de Galles où il présente son premier album intitulé The Reach, mélange de groove mais aussi et surtout d'engagement. Reportage de notre envoyé spécial José Marinho.
Afrocluster est un collectif qui mélange l'afrobeat, le jazz et la musique ouest-africaine, mais aussi le hip-hop.
Hip-hop.
Toomey Williams est la voix et l'âme d'Afrocluster depuis 2011. Afrocluster, un collectif venu de Cardiff, 9 musiciens et autant de nationalités que de groove. Il mêle funk des années 70, afrobeat, jazz et rap. Sa musique, c'est pas juste un son, c'est un dialogue entre les continents, entre les époques, entre les peuples.
Afrocluster, c'est une conversation vivante, je dirais, un échange entre plusieurs cultures. Il s'agit de partager des expériences vécues de mon parcours personnel, du Nigeria jusqu'au Pays de Galles, en passant par les Caraïbes et l'Angleterre. Quand nous nous réunissons dans la création artistique, c'est un peu comme un carrefour culturel. Il y a une vraie énergie. Et cela se reflète dans les performances, dans la lumière. L'amour de la musique, pour moi, c'est ça. Aimer et se faire aimer.
Dans un monde qui construit des murs un peu partout, Afrocluster fait exactement l'inverse. Il fabrique des ponts avec son style métissé, joyeusement engagé. Et au festival Focus Wales, c'est simple, ça réveille tout, la foule et même les consciences.
Dans notre groove, il y a un message de respect pour les migrants et un appel à l'unité. Notre musique se présente aussi comme un défi politique. Mais est-ce que les grands de ce monde sont prêts à un échange culturel? En attendant, nous apportons une réponse avec notre musique et une ambiance festive à ce monde chaotique, et c'est déjà le message.
Faire bouger les têtes, c'est une chose, se faire entendre quand on fait une musique aussi libre, c'en est une autre. Alors Toomey Williams s'adapte.
Le marché du jazz, la scène, le groove, c'est comme le jeu vidéo Resident Evil. Chaque année, une nouvelle version, un nouveau défi, mais on y revient, parce que c'est ça, être fidèle à un son, à une vibration. Ce son-là, il nous reflète, c'est notre miroir, il dit qui on est. Notre parcours, nos passions, tout cela construit notre identité de groupe. C'est l'expérimentation de la liberté. Face au chaos, on propose la lumière. Et on parle, oui, on parle vraiment au monde, à ceux qui aiment.
Afrocluster ne cherche pas à rentrer dans les cases, il les fait sauter en musique. José Marinho, Pays de Galles, RFI.
Et c'est avec la musique d'Afrocluster que se referme cette demi-heure. Merci à Laurent Hérault à la réalisation, à Vincent Dublange à la rédaction en chef. Dans un peu plus d'une minute maintenant sur RFI, un nouveau journal. Il sera 6h à Paris, 4h en temps universel.
Géopolitique.
La scène internationale est marquée par des discours et des actes violents, illustrés par l'invasion de l'Ukraine, les manœuvres chinoises autour de Taïwan et les actions du président Trump envers l'Ukraine, le Canada, le Royaume-Uni et l'Union européenne. Ces intimidations exercées par les États-Unis ou encore la Chine s'étendent du Proche-Orient à l'Asie, créant un panorama inquiétant. Le professeur Frédéric Charion nous livre son regard dans Géopolitique, proposé par Marie-France Attin, tout à l'heure à 17h10.
RFI. Radio Foot International, émission spéciale, prix Marc-Vivien Fauré. Annie Gasnier.
Ils ne sont plus que trois potentiels vainqueurs. Habib Diarra, le Sénégalais, du RC Strasbourg. Evan Guessan, l'Ivoirien, de l'OGC Nice. Et Achraf Hakimi, le Marocain, du PSG. Et ce lundi sera dévoilé le nom du lauréat 2025.
Radio Foot International.
Du lundi au vendredi, à partir de 16h10 TU.
RFI.